Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, bonjour.
Bonjour Alexandre de Galzin.
Alors, qu'avez-vous retenu des accusations au racisme portées contre CNews la semaine dernière? Il y en a eu deux, notamment une qui portait sur les propos d'un psychologue, une autre sur Michel Onfray. Donc, qu'en avez-vous retenu?
Écoutez, j'ai vu qu'on a eu droit à un festival de fake news, en tout cas. Et ce que j'ai retenu en premier lieu, c'est que pratiquement pendant tous les médias sont tombés dans le panneau en reprenant le récit d'un racisme fabriqué par la France insoumise. Et cette porosité de la presse avec la France insoumise, son incapacité à exercer un minimum d'esprit critique et d'en revenir aux faits, d'en revenir au verbatim, confirme la grave crise idéologique que traverse le journalisme, en tout cas le journalisme de connivence, le journalisme de cour, le journalisme labellisé. Bon, ce n'est pas une découverte naturellement pour moi ni pour vous, j'imagine, mais c'est en tout cas une grande déception. J'ai retenu également le grand professionnalisme de la France insoumise dans la désinformation et dans ses techniques de désinformation, car en effet, LFI a su parfaitement détourner les critiques qui étaient légitimes portées les 27 et 28 mars, en effet, par le psychologue Jean Dorido et le philosophe Michel Onfray, qui tous deux avaient à commenter la phrase de Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, disant qu'il exigeait allégeance, et tous deux avaient commenté à leur manière cette déclaration, sans que jamais ni l'un ni l'autre ne compare naturellement, ça aurait été une stupidité sans nom, le maire de Saint-Denis à un singe. Or, c'est bien cette version absurde qui a été imposée par le maire de Saint-Denis avec l'aval, en effet, de tout ce système. Et de ce point de vue, on peut reconnaître que le maire de Saint-Denis, M. Bagayoko, se révèle être un homme politique très habile, en tout cas très habile, dans l'application des techniques propagandistes visant à criminaliser l'adversaire et en tordant les faits. J'ai retenu également aussi, et ça c'est également, ce n'est pas une surprise, mais une confirmation, j'ai retenu l'attitude honteuse du gouvernement qui a soutenu ce procès stalinien, c'est un procès stalinien, contre CNews, et par les voix du Premier ministre et par les voix du ministre de l'Intérieur. Une fois de plus, la France insoumise et le Bloc central, la France insoumise et la Macronie, marchent la main dans la main, en tout cas pour interdire toute critique portée à la Nouvelle-France et à ces minorités ethniques qui se réclament elles-mêmes de leurs origines immigrées, qu'elles soient africaines ou maghrébine. Encore une fois, c'est CNews qui devient le bouc émissaire de l'échec du multiculturalisme qui est promu, en effet, par Macron et par Mélenchon, qui tous deux défendent cette société ouverte dont on voit aujourd'hui les désastres, si on veut bien les regarder. Et puis j'ai retenu enfin, pour en finir avec votre question, j'ai retenu que cette nouvelle France qui est le produit et du vivre ensemble et de l'antiracisme est une France qui rejette le vivre ensemble et qui promeut le racisme. Elle rejette le vivre ensemble dans la mesure où les journalistes qui étaient présents lors de la manifestation de samedi sur le parvis de Saint-Denis ont été malmenés. Des journalistes de frontières, ont dû quitter la place. J'ai entendu dire que le Parti Socialiste et SOS Racisme, qui avaient promu cette société multiculturelle, ont été eux-mêmes sifflé. Et puis, je trouve que c'est en effet LFI, cette Nouvelle France promeut le racisme dans la mesure où Mélenchon lui-même parle des tout blancs, tout moches, en se désignant lui-même d'ailleurs dans une aberration intellectuelle. Mais enfin, passons, qu'il a dit très récemment également, parlant des Français de souche, qu'il posait un problème de cohésion à la société et qui, en effet, alimente à travers des propos antisionistes un antisémitisme qui est bien compris, en tout cas par une partie d'une population nouvelle qui est imprégnée de cet antisémitisme culturel. Donc, pour toutes ces raisons, il est temps d'envoyer balader tous ces imposteurs.
Et alors justement, comment combattons ces faux procès en racisme?
Eh bien, c'est toute la question. Il faut en tout cas les combattre. Il faut vraiment comprendre qu'il faut entrer en résistance contre ces nouveaux totalitarismes. Ce nouveau totalitarisme, appelons-le islamo-gauchiste, qui a ses collaborateurs auprès des médias, on l'a vu, et auprès du pouvoir, c'est-à-dire auprès du système. Il ne faut pas craindre aujourd'hui, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui sont vraiment, en tout cas, indignés par ce qui se passe, de dénoncer ces alliances qui s'apparentent à des traîtrises, de mon point de vue, dans la mesure où cette nouvelle France entend remplacer, et d'ailleurs, Mélenchon parle de grand remplacement, entend remplacer la France de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire la France des indigènes, la France des autochtones, la France des Français de cœur. Il faut tenir d'ailleurs Emmanuel Macron comme complice de ces opérations de propagande visant à conflictualiser la société, non seulement en instillant la lutte des classes, mais maintenant en instillant la lutte des races. Il faut dénoncer, en effet, la dérive totalitaire, fasciste, de ces minorités ethniques qui se réclament de la couleur de leur peau pour prix de leur impunité. J'ai entendu, par exemple, samedi, le maire de la Courneuve, Ali Diouara, qui a sacralisé le maire de Saint-Denis en disant du maire de Saint-Denis qu'il était le nouveau roi de France, parmi d'autres déclarations absurdes. Or, faire cette déclaration à deux pas de la nécropole où sont enterrés les 43 qui ont fait la France est une provocation qui n'a suscité aucun scandale, aucune indignation, aucune protestation, tant aujourd'hui, en effet, cette accusation en racisme est en train de tétaniser les esprits. Donc il faut sortir en effet de cet enfermement et en réalité, on se rend compte que les procès en racisme conjugués aux procès en islamophobie sont faits pour désarmer tous ceux qui entendent défendre la France pour ce qu'elle est encore dans sa continuité historique et dans sa continuité civilisationnelle. En tout cas, il n'est pas question pour moi et pour beaucoup d'autres, et pour vous, j'imagine, de rendre les armes devant cette tyrannie des minorités qui, encore une fois, applique à la lettre les techniques de subversion dictatoriale telles que le politologue Roger Mukieli, dont je vous montre le livre à ceux qui ont la vidéo, les avait décrites dans les années 70. Et ce dernier a invité à l'époque à penser à des techniques de contre-subversion, précisément, pour répondre et pour démonter les mécanismes de la propagande totalitaire. Et
alors, quelles sont ces méthodes, Yvan Rioufol ?
Ces méthodes de subversion sont des méthodes qui consistent à prendre le pouvoir en démoralisant l'adversaire. Sun Tzu, le grand stratège chinois, avait déjà établi effectivement cette stratégie-là, mais c'est une stratégie qui est décrite parfaitement par Mukieli dans les années 70, et donc lui disait qu'il fallait précisément répondre à cette stratégie par des contre-subversions, et c'est à cet objectif qu'il faut aujourd'hui, nous, vous, tout le monde, la société civile, s'atteler. C'est du ressort des médias alternatifs dont vous êtes, c'est du ressort des réseaux sociaux, c'est du ressort des individus, de la société civile, encore une fois, afin de montrer que l'on refuse ces opérations de propagande. Et c'est des ressorts également, naturellement, des hommes politiques eux-mêmes, sauf que je remarque, malheureusement, que les hommes politiques courageux se comptent, encore une fois, sur les doigts d'une main, puisque je ne les ai pas entendus beaucoup cette semaine passée dénoncer, justement, cette grande mascarade de LFI et cette victimisation des minorités sur des propos déformés. Donc il est urgent, encore une fois, de se révolter. Et vous savez, Camus a écrit « L'homme révolté ». Et l'homme révolté, dit-il, c'est l'homme qui dit non. Il faut apprendre aujourd'hui à dire non. Il faut apprendre à se révolter. Il faut refuser ces faux procès, ces intimidations, ces lynchages qui sont le fait, encore une fois, d'authentiques racistes, j'ai tenté de le démontrer, mais d'authentiques fascistes également. Et c'est ce combat qui est éminemment moral, dans le fond, et c'est ce combat-là qui est à mener.
Et Yvan Rioufol, à vous entendre, on vous croirait antiraciste et antifasciste.
Mais je suis antiraciste et antifasciste, Dieu merci, oui, bien sûr. Mais simplement, vous voyez bien que cet antiracisme et cet antifascisme a été maintenant instrumentalisé par tous ceux qui se réclament effectivement d'être antifascistes et antiracistes. Comment pourrait-on être fasciste et raciste ? Simplement, ce sont ceux-là même qui dénoncent le racisme chez les autres et qui le pratiquent eux-mêmes. En tout cas, pour la France insoumise, c'est tout à fait flagrant, puisque, encore une fois, la France insoumise se définit comme étant maintenant le porteur de cette nouvelle France, qui elle-même est définie par Mélenchon comme étant la France de l'immigration, et la France qui se définit par rapport à ses origines. Et en plus, donc, une France racialiste et raciste, en effet, au nom de l'antiracisme, et une France que j'estime être fasciste, dans la mesure où elle applique elle-même les méthodes totalitaires, encore une fois, qui ont été décrites par bien d'autres que moi, et qui consiste à désinformer, à trafiquer les faits afin de culpabiliser l'adversaire, de lui faire douter de ses valeurs, de lui faire douter de sa propre histoire, de lui faire douter de sa propre civilisation. Et c'est surtout ce mécanisme pervers de la propagande qui, en effet, permet maintenant à des prétendus antiracistes et antifascistes de s'imposer comme sorte de parangon de la vertu, alors même que ce sont ceux-là même qui portent le nouveau fascisme, en effet, avec d'ailleurs ces nouveaux collaborateurs. Il y a une sorte de péténisation d'atmosphère, je trouve, qui est en train de s'installer au cœur même de la Macronie, qui n'osant pas résister à cette idéologie totalitaire qui est promue par l'islamisme, soutenu par cet islamo-gauchisme, est en train, en effet, d'accentuer cette subversion de la République par des groupes minoritaires qui entendent imposer une autre civilisation, dans le fond.
Mais il nous reste 2 minutes, Yvan Rioufol. Est-ce que vous nous diriez un petit peu plus, vous nous parleriez un petit peu plus des méthodes, justement, de contre-subversion ? C'est-à-dire qu'en fait, dire non simplement ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable d'installer son propre récit, être capable de répondre de manière argumentée à toutes ces subversions.
Vous avez raison. Il faut naturellement avoir les idées claires. Il faut savoir ce que l'on veut défendre. Ce que l'on veut défendre, effectivement, c'est le fait que je crois que c'était Malraux qui disait « J'appelle français ceux qui ne veulent pas que la France meure ». Je pense qu'il faut se reconnaître comme étant français tous ceux qui veulent effectivement défendre la France. Donc avec cet objectif qui est un objectif de survie existentielle, en effet, c'est un combat existentiel qui est amené, un combat civilisationnel, un combat identitaire. Ça, c'est pour les buts. Sur les méthodes, il faut maintenant être très critique, beaucoup plus critique que ne le sont les médias eux-mêmes, sur les méthodes qui sont employées, et singulièrement ces méthodes grossières qui ont été celles de la France insoumise, qui ont quand même baladé l'opinion, qui ont baladé les médias. Et encore une fois, je trouve que les médias ne font plus œuvre de contre-pouvoir quand ils sont incapables, effectivement, de mettre au jour les propagandes, les mensonges, les fake news qui ont été celles qui ont été propagées toute cette semaine, en laissant croire, encore une fois, que deux intellectuels ont dit des Noirs qu'ils ressemblaient à des singes. Il faut prendre les gens pour des imbéciles, il faut être parfaitement de mauvaise foi pour cela. Or, encore une fois, cet élémentaire esprit critique qui participe, dans le fond, de l'amollissement très général et de la crise de l'intelligence, dans le fond, collective, qui aujourd'hui nous désarme, c'est ce travail élémentaire de liberté d'expression et d'application de l'esprit critique qu'il faut renouer. Alors je sais bien que beaucoup de Français partagent ce bon sens et ne se laissent pas abuser, bien entendu, par tous ces procès grossiers, mais encore une fois, quand vous avez tout le système qui collabore en tout cas à ces désinformations, à travers le gouvernement, à travers les médias mainstream, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien il y a quand même tout un pan d'un mur qui reste à effondrer. Et encore une fois, nous ne sortirons pas de ce piège totalitaire, de ce piège-là, si la société civile, et c'est ma marotte, si les Français eux-mêmes, si les Français oubliés, n'engagent pas jusqu'au bout cette révolution que j'ai décrite dans un livre récent, cette révolution des oubliés, qui leur permet aujourd'hui de reprendre la parole.
Mais merci beaucoup, Yvan Rioufol. Heureusement que nous sommes là, tout de même. C'est aussi ce qu'on comprend.
Vous avez un rôle important à jouer.
Voilà, exactement. Nous avons tous un rôle important à jouer, et c'est une raison de plus pour soutenir Radio Courtoisie, chers auditeurs, qui, je le rappelle, conserve son indépendance grâce à vous, grâce à vos dons. Et tout de suite, pardon. Voilà.
Ligne droite, le monde autrement. Mériadec Raffray.
Et voilà, et nous allons donc passer à Mériadec Raffray qui nous parle d'Israël en guerre, une sorte de point toujours hebdomadaire et éclairant sur la situation, d'autant qu'il se passe des choses au Moyen-Orient comme toujours, mais encore plus que d'habitude ces derniers temps. Et pour tout ça, je laisse le micro à Richard de Sèze.
Merci Alexandre. Alors, et donc, nous allons recevoir Mériadec Raffray, qui va se reconnecter en fait.
Ah, et d'accord, j'ignorais. Je vous ai laissé la main au pire moment, Richard. veuillez m'en excuser.
Je vous en prie. Et avec qui, effectivement, nous allons parler d'Israël en guerre. Vous avez raison, il se passe toujours des choses au Moyen-Orient. Et là, en l'occurrence, Jean-Noël Barrot, vous l'avez remarqué ce matin, nous a dit qu'il ne fallait pas accepter que les infrastructures civiles soient frappées par Trump. Voilà. Et donc, c'est la première question que je poserai d'ailleurs à Mériadec Raffray. Bonjour Mériadec.
Bonjour Richard, bonjour Alexandre.
Voilà, donc vous êtes rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Je lisais ce matin une déclaration de Jean-Noël Barrot expliquant en réaction aux déclarations de Donald Trump que la France ne tolérerait pas que les infrastructures civiles soient frappées. Et donc, comme chaque fois que Jean-Noël Barrot parle, le monde tremble. Et ça m'a un peu interpellé parce que Jean-Noël Barrot n'a rien dit quand Israël a frappé les infrastructures civiles en Iran. Donc, est-ce que les infrastructures civiles iraniennes sont sacrées quand les États-Unis proposent de les frapper et le sont moins quand Israël les frappe?
Oui, mais vous avez dit, vous avez eu un qualificatif à propos de Jean-Noël Barrot. Le monde tremble quand il parle. Ben voilà, en fait, Jean-Noël Barrot, qui l'écoute encore, c'est en fait le naufrage de la diplomatie française qui est accroché à ses, comment dirais-je, à son droit humanitaire, droit international, mais selon un double standard, comme diraient d'ailleurs les ennemis de Jean-Noël Barrot, et ils ont raison. Hein, quand il s'agit de la Russie, évidemment, c'est le premier mort, le premier dommage collatéral est, permet de vouer aux gémonies Vladimir Poutine, même si vous et moi, on est d'accord, les civils ne doivent pas être ciblés par les belligérants. Mais quand il s'agit de l'Iran ou quand il s'agit d'Israël, encore pire, là, pour le coup, les choses sont complètement différentes. La réalité, c'est que Jean-Noël Barrot ne compte pas, sa voix n'est pas écoutée, et la France aujourd'hui est évincée, d'ailleurs, de la résolution, enfin, de la négociation irano-américaine, alors que la France, traditionnellement, avait un poids majeur, très important, étant donné sa connaissance et son implication dans le dossier iranien. Ça, c'est une chose, et pour en revenir à Israël, c'est encore plus vrai, puisque la France est historiquement la protectrice des chrétiens d'Orient, la fondatrice, ou en tout cas la marraine du Liban actuel tel qu'on le connaît après le protectorat. Et donc la France avait évidemment un rôle à jouer, mais voyez, et on va rentrer dans le dossier en évinçant
Jean-Noël
Barrot. Voilà, Jean-Noël. La semaine dernière, qui était envoyé par Emmanuel Macron au Liban? Ce n'est pas Jean-Noël Barrot, c'est Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, qui est allée, qui a accompagné en fait et inauguré la rétrocession par la France d'une quarantaine de véhicules de transport blindés, de troupes blindées, aux forces armées libanaises, les fameux VAB, les véhicules de l'avant blindé, cette bête de somme de l'armée de terre depuis plus de 40 ans. La France a donné, une fois n'est pas coutume, les derniers, les modèles les plus évolués de ces véhicules à l'armée libanaise qui est pauvre. Et elle devait également, Alice Ruffo, elle était également chargée d'une part d'en profiter pour parler de la situation avec les autorités libanaises, mais également elle devait ensuite... Elle souhaitait ensuite se rendre en Israël, à Tel Aviv, à l'aéroport de Ben-Gourion, où en fait on lui a expliqué que ce n'était pas le bon moment pour venir voir les autorités israéliennes. Voilà la réalité en fait du poids diplomatico-politique de la France aujourd'hui. Alors je ne parle même pas de la Russie, je ne parle pas de l'Iran, je parle d'un pays dans lequel la France a la légitimité historique, culturelle, philosophique, religieuse, politique, pour pouvoir peser en fait dans cette crise et trouver les voies et moyens d'une alternative à l'ouverture du feu ou en tout cas à l'invasion programmée d'Israël au sud du Liban. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, la France est dans une nasse sans doute. Est-ce le solde résultat, en fait, de la diplomatie de Jean-Noël Barrot, en fait, de la non-diplomatie ou de l'anti-diplomatie, on pourrait même dire l'anti-diplomatie. La diplomatie, me disait des responsables haut placés, autant diplomates que militaires français, qui voient les choses d'une manière assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui très peu nombreux. La diplomatie, c'est deux choses. C'est combien vous pesez en termes militaire et combien vous pesez en termes financiers. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table pour faire évoluer les acteurs d'une crise? Voilà, c'est ça la diplomatie. Aujourd'hui, la France ne compte plus, soit parce qu'elle n'a plus d'argent, soit parce qu'elle a une armée, mais elle ne souhaite plus, elle ne veut plus, ou elle ne sait plus l'utiliser à bon escient. La réalité, c'est ça. La France aurait toujours les moyens aujourd'hui d'agir, d'intervenir ou de peser sur cette crise libanaise. Mais en fait, pour peser dans le dossier libanais, il y a trois contraintes. La première, c'est d'y être accepté par les Libanais eux-mêmes. Ça, c'est la case est cochée puisque les autorités libanaises demandent à la France de les aider, de les appuyer. On va pouvoir revenir, si vous voulez, sur cet aspect des choses. Donc la France est la bienvenue au Liban, par les Libanais, j'entends. Deuxième et troisième contrainte, il faut pouvoir agir, peser, être écouté, entendu des deux autres acteurs majeurs du dossier, à savoir Israël, bien sûr, et l'acteur qui peut avoir un poids sur Israël, c'est les États-Unis. Bon, si on prend les choses dans l'ordre, les relations entre la France et Israël sont en plus mal depuis plusieurs années et ces derniers jours, ces dernières semaines, se sont encore dégradées. Quant aux relations avec les États-Unis, il ne vous a pas échappé que Donald Trump passe son temps, on peut dire, à railler Emmanuel Macron, passe son temps à railler les Européens, passe son temps à dire pique et pendre contre la France en particulier, pas seulement la France, mais la France en particulier, dans le dossier iranien, expliquant que la France ne veut pas s'engager à ses côtés pour libérer les détroits d'Ormuz et menaçant la France et les autres États européens membres de l'OTAN de pétarder l'OTAN en sortant directement de l'OTAN. Donc les relations sont mauvaises. Et en fait, dans le dossier libanais, c'est au moins le deuxième envoyé spécial de l'Élysée au Liban par Emmanuel Macron, qui avait la mission donc de trouver une voie, une médiation, une alternative possible au dossier en discutant avec les autorités libanaises, mais aussi en discutant avec les autorités israéliennes. Le premier, c'était, rappelez-vous, j'en avais parlé sur votre antenne il y a quelques semaines, le chef d'état-major des armées, autour du 2 mars, quelques jours après l'ouverture du feu du Hezbollah sur Israël. Ce dernier avait voulu aller de l'autre côté de la frontière voir son homologue israélien et les choses n'avaient pas été possibles. Alors après, chacun interprétera cette impossibilité comme il l'entend. Deuxième tentative, lancée par Alice Ruffo la semaine dernière, qui est une diplomate professionnelle et qui n'a pas été autorisée à aller en Israël. Donc, à partir de là, si vous voulez, le poids de la France, au-delà des rodomontades, des mots, des formules magiques et idéologiques du Quai d'Orsay, reprises en boucle par un Jean-Noël Barrot, grand prêtre de la secte du Quai d'Orsay, si vous voulez, pour éditorialiser un peu le propos, parce que franchement, il y a des moments où on a vraiment envie de le faire. La France a les moyens, a des propositions à faire, mais c'est très compliqué quand vous n'êtes plus reçu, écouté, entendu par les gens qui comptent. Il y a quand même... Et pour essayer de boucler et pour être relativement, rester équilibré, vous savez que j'ai nuancé ou équilibré dans ce dossier, il est vrai aussi que la France se heurte à un paradoxe libanais. C'est-à-dire, la situation est aujourd'hui la suivante. Les Libanais disent aux Israéliens, donc l'idée c'est, on explique, les voies et moyens pour trouver un cessez-le-feu, pour éviter une deuxième ou une troisième même invasion d'Israël au sud Liban. Et les deux parties, maintiennent un dialogue, des discussions par acteurs interposés, par médias interposés. Et la problématique est la suivante. D'un côté, les Libanais disent, ou les amis des Libanais disent aux Israéliens, vous ne pouvez pas recommencer une invasion du sud Liban. D'ailleurs, c'est un plan qui pourrait vous coûter très cher. Vous êtes aujourd'hui sur tous les fronts. vous y perdriez davantage que vous y gagneriez. Et le risque majeur, disent les amis des Libanais, donc les Français et d'autres, ils disent, si vous détruisez à nouveau par le feu, par les canons en fait, le sud Liban, et que vous envahissez à nouveau le sud Liban, vous allez produire l'effet inverse de l'effet recherché. C'est d'ailleurs ce que disent aussi un certain nombre de stratèges israéliens. C'est-à-dire que vous allez ressouder la population chiite, et pas seulement chiite, vous allez ressouder l'ensemble des communautés libanaises contre vous. Alors qu'aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, le fait que le Hezbollah ait de nouveau agressé Israël, en fait, mettait le Hezbollah dans un coin politique au Liban, y compris vis-à-vis de ses soutiens traditionnels, c'est-à-dire la population chiite, qui n'en peut plus, en fait, de ces guerres à répétition. Hein, la dernière, je vous rappelle, s'est terminée en octobre 2024, qui ont pour conséquence, en fait, de détruire le Sud-Liban, l'économie du Sud-Liban, de détruire les infrastructures qui permettent aux gens de vivre et d'avoir des métiers. Ces gens qui sont paupérisés de plus en plus et qui sont obligés en fait de se réfugier régulièrement au nord dans des conditions que l'on connaît aujourd'hui, dont on a parlé à l'antenne. Et donc, les gens, ces amis des Libanais, disent Israéliens, messieurs Israéliens, vous avez certes un problème sécuritaire à régler, mais la manière dont vous voudriez le régler, aiguillonné d'ailleurs par les plus idéologues d'entre vous, je parle de la droite extrême, voire extrême droite, voire droite très très extrême israélienne, eh bien, va vous causer plus de tort que de bénéfices. Et les Israéliens répondent, ou faut répondre, ok pour un cessez-le-feu, mais commencez d'abord par désarmer le Hezbollah, ce que vous n'avez pas fait malgré votre promesse actée par votre signature dans l'accord du cessez-le-feu de novembre 2024, donc de l'année dernière. Commencer par réellement en fait désarmer le Hezbollah, et une fois que nous aurons les preuves que vous désarmez bien les Hezbollah, à ce moment-là, on voudra bien parler de cessez-le-feu. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque de facto, les forces armées libanaises en fait auraient du mal, évidemment, et c'est ce qu'elles disent d'ailleurs, à désarmer une milice sous le feu israélien. Mais la réalité en fait se situe comme d'habitude entre les deux, c'est que et c'est là où, en fait, le bât blesse, y compris vis-à-vis de la France, qui veut prendre en charge, qui veut essayer de trouver une porte de sortie à ce dossier, c'est que les forces armées libanaises, comment dirais-je, l'expriment quasiment de la manière dont je l'exprimais très clairement et un peu schématiquement pour vos auditeurs, c'est qu'elles ne souhaitent pas, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, elles ne souhaitent pas, en fait, réaliser le désarmement concret du Hezbollah. Pour deux ou trois raisons. La première, c'est que les forces armées libanaises sont des forces qui sont très faibles militairement. Deuxièmement, ces forces armées libanaises sont constitutives, représentatives du patchwork ethnique et religieux libanais. Et dans leur rang, elles ont, selon les chiffres, peut-être elles intègrent un tiers de chiites. Donc, ce qui signifie, et selon les analystes les plus pessimistes, ce tiers de chiites, une bonne partie de ce tiers de chiites est de cœur et plus avec le Hezbollah. On sait par ailleurs qu'un certain nombre d'unités des FAL sont clairement noyautées par le Hezbollah, en particulier toute la partie du renseignement qui est aux mains du Hezbollah, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans les cellules de renseignement des FAL, en fait, transite directement vers le Hezbollah. Donc le patron des forces armées libanaises, le général Ekal, lui connaît bien ses équilibres internes et ne veut pas prendre le risque de désintégrer, de provoquer une désintégration, une implosion, en fait, des forces armées libanaises pour remplir une mission qui... à ses yeux ou aux yeux de ses conseillers, est une mission suicide, c'est-à-dire aller sous le feu israélien, chercher des armes de gens qui n'ont absolument pas l'intention de leur donner mieux. Ils sont aujourd'hui, comme les Iraniens, dans un modèle, une perspective de résistance, voire de martyr. Et donc, ils n'ont plus rien à perdre. Alors, les Français, aujourd'hui, se heurtent à cela. C'est-à-dire que même politiquement, en fait, les Libanais ne sont pas dans une perspective de sortie par le haut en prenant une bonne fois pour toutes très concrètement le problème libanais pour essayer de le neutraliser. Nous sommes encore à l'aune des déclarations. Un dernier exemple de ce paradoxe libanais. La semaine dernière, les Libanais ont suivi l'histoire de l'ambassadeur d'Iran au Liban. Il y a une semaine, le ministre des Affaires étrangères libanais, chrétien, puisque vous savez que c'est un gouvernement confessionnel, avait lancé un ultimatum à l'ambassadeur d'Iran au Liban, lui disant « Vous avez 2 jours pour faire vos valises, vous êtes désormais persona non grata au Liban ». Et en fait, il s'est heurté à un certain nombre de ministres de ses pairs, d'autres ministres, d'obédience chiite notamment, je pense aussi au président du Parlement, Nabih Berri, qui s'est opposé à cette décision, disant que c'était une décision unilatérale. Toujours est-il que cette injonction de quitter le territoire libanais s'est transformée en un pataquès qui a accouché d'une souris, puisque finalement l'ambassadeur est resté. Et le ministre des Affaires étrangères en est sorti par le haut en expliquant qu'il n'avait plus ses lettres de cachet, qu'il restait comme un diplomate. Voilà. Donc on voit bien, si vous voulez, que au sein même au sommet de l'autorité libanaise, les partis politiques, les représentants en fait des différentes entités libanaises sont dans un jeu très compliqué et ne sont pas prêtes, en mesure de sortir par le haut de ce dossier qui n'en finit plus de pourrir. Et l'on comprend d'une certaine manière l'impatience, l'exaspération et l'envie d'Israël d'en finir à nouveau. La question est toujours la question de la méthode.
Alors, la question est toujours celle de la méthode avec pour Israël. On sent aussi que la question est de continuer coûte que coûte, sur tous les fronts ouverts, sans jamais désarmer et sans jamais baisser le niveau d'exigence. Voilà. Les ministres israéliens ont expliqué qu'il fallait envahir le Liban, que c'était un objectif de guerre et donc ils envahiraient le Liban pour installer un glacis. Ils ont expliqué qu'il fallait abattre l'Iran et donc ils ont commencé à bombarder toutes les infrastructures civiles disponibles. On en reparlera ce soir d'ailleurs avec un journaliste iranien qui est l'un des rares journalistes francophones à être installé encore à Téhéran. Donc il y a de la part d'Israël l'idée d'une guerre totale et que rien ne peut arrêter, puisque ni la négociation ni la force militaire ne paraissent être possibles dans un cas ou être un obstacle dans l'autre.
Alors, pour rester quand même sur le dossier libanais, peut-être qu'il est intéressant pour vos éditeurs de refaire le point, un bilan de où en est aujourd'hui l'offensive d'Israël au Liban. Sachant qu'en fait, Israël est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, alors vous avez employé le mot guerre totale, je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, Israël est sur tous les fronts, c'est certain. Et d'ailleurs, le général chef d'état-major de l'armée israélienne l'a redit la semaine dernière à ses politiques. Il leur a dit, messieurs, si vous accréditez, si vous comment dirais-je, si vous reconnaissez en fait l'offensive des colons israéliens sur la Cisjordanie telle qu'elle se développe aujourd'hui depuis plusieurs semaines à la faveur en fait de cet environnement de guerre totale globale tous azimuts d'Israël, vous m'obligeriez, moi patron de l'état-major, à prendre sur mes unités pour les amener, les dépêcher du côté de la Cisjordanie, où évidemment les Palestiniens ne vont pas laisser leurs terres, leurs biens et voire même leurs femmes et leurs enfants être victimes en fait de l'offensive illégale des colons israéliens sur la Cisjordanie, qui, je le rappelle, est gérée par l'autorité indépendante palestinienne. Le chef d'état-major des armées a dit, dans ces cas-là, moi je vais avoir un problème en fait pour faire face sur tous les fronts, y compris au nord, où j'ai besoin de toutes mes unités. Et je vous rappelle aussi que pendant ce temps-là, Gaza, on n'en parle plus, mais la sécurité est loin d'être rétablie à Gaza et que l'armée israélienne est largement consommée à Gaza.
Donc, vous voyez et que, l'armée israélienne qui continue d'ailleurs de bombarder sporadiquement Gaza.
Voilà. Donc Israël est dans ce schéma-là, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'offensive annoncée tambour battant par les plus extrêmes du gouvernement israélien, on parle de Ben-Gvir, etc., sur le Liban, c'est cela même qui explique qu'il faut raser le Liban, qu'il faut transformer les villes du Liban en Khan Younes, c'est-à-dire en Nouvelle Gaza, faire du Sud-Liban une Nouvelle Gaza, raser, autrement dit. En fait, il y a un véritable décalage, comme d'habitude, entre leur péroraison et leur déclaration publique et la réalité des opérations militaires d'Israël au Liban, que je vais essayer de résumer en quelques mots, si vous le voulez bien. L'offensive d'Israël au Sud-Liban, elle est réelle, dure, massive, mais lente et prudente, à terre, j'entends. Pendant ce temps-là, enfin, ce week-end, par exemple, le week-end de Pâques, les bombardements ont été incessants sur Beyrouth en particulier, sur tout le Liban. Donc il y a deux niveaux de l'opération israélienne. Il y a toujours le niveau des opérations aériennes qui, elles, ne fléchissent pas et qui vise à détruire et à cibler systématiquement tous les endroits où Israël a repéré en fait des éléments du Hezbollah par son renseignement. C'est une destruction systématique des cibles connues et repérées, soit identifiées par Israël, dans tout le Liban. Et la fête de Pâques n'a pas empêché les Israéliens de faire une pause pour cette fête religieuse. Les vidéos en fait des bombardements subis par Beyrouth ce dimanche en particulier sont absolument incroyables et vraiment dramatiques. Ça, c'est une chose. Pendant ce temps-là, ces bombardements visent aussi à encager la partie qui intéresse militairement, stratégiquement Israël, à savoir le Sud-Liban. Donc je rappelle pour vos auditeurs, le Sud-Liban, c'est une bande de territoire relativement rectangulaire, un peu comme un rectangle, c'est à peu près une quarantaine de kilomètres de large sur une trentaine de kilomètres de profondeur vers le nord, donc au sud, s'adossant à la Blue Line, la frontière entre les deux pays, faisant office de frontière entre les deux pays, et au nord, s'adossant au fleuve Litanie, qui coule depuis l'est jusqu'au nord de la ville de Tyr, qui marque en fait la limite du Sud-Liban dont on parle depuis les années 1978 et la création de la force intérimaire des Nations Unies pour le Sud-Liban. Et en fait, Israël casse systématiquement en ce moment tous les ponts, les routes qui permettent de passer du sud au nord de manière à encager ce territoire pour militairement éviter en fait les va-et-vient des logisticiens du Hezbollah, puisqu'on a bien compris maintenant que en 2024, en réalité, les gens du Hezbollah avaient reculé leurs arsenaux de l'autre côté pour échapper aux premières destructions. Et aujourd'hui, en fait, Israël encage ce territoire pour y ensuite y détruire systématiquement les reliquats du Hezbollah. Ils opèrent aujourd'hui dans une bande de 5 à 10 kilomètres au-delà de la frontière pour continuer les destructions initiées en 2024 au sol. On voit qu'il y a encore ces fameux villages chrétiens du centre de cette bande de 10 km qui continue à résister. Et de chaque côté, vous avez la tenaille israélienne qui se déploie, à l'ouest, le long de la mer, du côté de Nakoura en direction de Tyr, et à l'est, en direction de, au-delà des fermes de Metula, le doigt de Metula, c'est-à-dire au nord-est, et qui vise directement le fleuve Litanie. Et puis, puisqu'il me reste une minute pour terminer, aujourd'hui, les experts ont vraiment une crainte, c'est que pendant ce temps-là, l'armée israélienne passe un pacte, en quelque sorte, avec le Syrien Al-Shara pour que ces unités puissent passer le long de la frontière côté syrien et remontent directement pour prendre à revers les gens du Hezbollah dans la plaine de la Bekaa qui se situe vraiment au nord-est du Liban, entre les deux chaînes de montagnes, les monts Liban, les monts anti-Liban. Voilà aujourd'hui où l'on en est. Les combats font rage, à telle enseigne qu'il y a de nombreux morts, y compris chez les forces spéciales israéliennes, qui ont été filmés en direct par le Hezbollah la semaine dernière, tombant dans un piège du Hezbollah. Le Hezbollah avait mis un drone qui a filmé en direct la mort de ces commandos de Tsahal. Le combat est dur aujourd'hui et évidemment Israël ne va pas engager ses forces comme ça dans cette bataille. Elle avance de manière prudente mais avec cette volonté de faire table rase de tout ce qui se trouve de l'autre côté de la frontière pour pouvoir assurer la sécurité de ses ressortissants.
Et c'est une façon de voir les choses. Merci beaucoup, Mériadec Raffray, et à la semaine prochaine pour continuer à en parler.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous suivons la ligne droite, notamment avec Victor Robert. Victor Robert qui vient de nous rejoindre pour sa chronique hebdomadaire. Vous êtes directeur général d'Academia Christiana, je vais y arriver, pardon, bonjour.
Bonjour cher Alexandre, bonjour chers auditeurs.
Alors, l'Église de France vient de vivre un week-end pascal assez inattendu. 21 000 adolescents et adultes ont reçu le baptême. C'est une hausse de 28% chez les adultes tout de même par rapport à l'an dernier. Faut-il voir dans ces 21 000 baptêmes la fin de l'hiver pour l'Église de France, selon vous ?
Alors, c'est indéniablement une immense joie, une véritable lumière au milieu de la déchristianisation que nous traversons. Accueillir 13 000 adultes, 8 000 adolescents, avec des hausses annuelles qui donnent parfois le vertige, c'est vraiment le signe que l'Esprit-Saint souffle sur notre vieux pays qu'est la France. Surtout quand on se souvient qu'en 2021, au moment du rapport de la SIAZ, beaucoup dans nos rangs pensaient que tout était définitivement perdu. Mais pour vous répondre franchement, non, ce n'est pas tout à fait la fin de l'hiver. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à regarder l'ensemble des chiffres et la réalité est brutale. C'est que ce regain exceptionnel chez les adultes ne compense absolument pas l'effondrement colossal des baptêmes d'enfants. Mmh. L'historien Guillaume Cuchet démontre implacablement qu'en l'an 2000, la France enregistrait 400 000 baptêmes, tous âges confondus. Aujourd'hui, en 2026, nous serons approximativement à 160 000 baptêmes. Le taux de baptême des nouveau-nés, qui était de 60% il y a 25 ans, s'est écrasé pour atteindre à peine 25% en 2024. L'information qui est véritablement pertinente, c'est qu'en un quart de siècle, le nombre total de baptêmes a été divisé par deux en France. Guillaume Cuchet explique également que l'Église a perdu donc 200 000 baptêmes d'enfants pour n'en gagner que quelques milliers chez les adultes. Le taux de récupération est inférieur à 2%. Donc, si on se focalise uniquement sur ces convertis en occultant le reste, on passe à côté d'une dynamique d'ensemble, celle de la déchristianisation massive, profonde et de plus en plus rapide de notre pays.
Alors le constat est sévère mais nécessaire, mais dans ces 21 000 personnes, pardon, elles sont bien réelles. Qui sont ces nouveaux catholiques qui choisissent d'aller à contre-courant d'une société laïcisée ?
Alors leur profil est la deuxième grande surprise de ce mouvement, c'est un véritable camouflet pour le clergé socio-culturel et bourgeois des décennies passées. Ce sont d'abord des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont souvent aussi des lycéens qui forment le gros des troupes. Ils sont issus de milieux majoritairement urbains avec une population à 65% féminine. Mais ce qui est fascinant, c'est la sociologie de ces jeunes. Ils ne viennent pas des beaux quartiers. En 2026, 34% de ceux qui se préparent au baptême sont issus de milieux populaires. Ce sont donc des enfants d'ouvriers, de techniciens, d'employés. Ils n'appartiennent pas donc à des petits cercles mondains, bourgeois, qui se connaissent depuis l'enfance. Mmh. Et on les trouve justement souvent dans les centres-villes. Par leur simple manière d'être, par leur franc parler, ils viennent briser justement cet entre-soi mondain qui était peut-être une des sociologies majoritaires dans l'Église en France. Et surtout, pour la quasi-totalité des adultes, la démarche se fait entièrement en dehors du cadre familial. La chaîne de transmission a été totalement rompue par les générations précédentes. Ces jeunes émergent des ruines et des périphéries de l'Église.
Alors, c'est vertigineux, mais s'ils ne reçoivent plus rien de leur famille, quel est le déclencheur? Pourquoi est-ce qu'ils font ce choix si exigeant aujourd'hui?
Alors, il y a toujours, bien sûr, une épreuve intime, hein, souvent un accident de la vie, un deuil, une chute, comme en témoigne un agriculteur qui a trouvé la foi après avoir survécu d'une chute de 5 mètres. Hein, ces chocs, justement, vont briser un petit peu le matérialisme ambiant et ramener à l'essentiel. Mais il faut creuser encore plus loin parce que sur le plan civilisationnel, Guillaume Cuchet identifie très justement que nous assistons au début d'un mouvement de réenracinement. Ces jeunes, justement, ont une véritable soif et faim spirituelle. Ils sont les héritiers d'un monde déconstruit, du consumérisme, qui a vidé, justement, le monde de tout sens. Et ceux qui cherchent dans l'Église, bien, c'est une filiation, une culture, une tradition. Ils ont soif de radicalité. Ils ne viennent pas pour entendre des discours fades, humanistes. Ils veulent du sacré, de la verticalité, de la beauté, de la morale, de la discipline. Et ce n'est donc pas un hasard si beaucoup d'entre eux se tournent naturellement vers la liturgie traditionnelle, vers des orientations doctrinales qui sont claires, même si l'institution évite parfois d'en parler. Ensuite, il faut dire les choses, l'islam joue un rôle majeur. La jeunesse musulmane est extrêmement fervente, visible, et face à cette ferveur, une partie de la jeunesse française ressent un électrochoc. C'est un mélange finalement de réactions identitaires, un instinct de survie pour essayer d'affirmer et savoir même qui l'on est, et puis d'émulation. Ils veulent une religion qui s'assume. Et d'ailleurs, cette quête de clarté trouve des réponses immédiates sur Internet. L'influence des réseaux sociaux, elle est massive. Il y a beaucoup de prêtres courageux qui ont des discours décomplexés, qui répondent directement aux questions morales, doctrinales, sur les plateformes que fréquentent la plupart de ces jeunes convertis.
On a donc une jeunesse soif d'absolu qui frappe à la porte des églises. Mais une fois la nuit de Pâques passée, que se passe-t-il? Est-ce que nous sommes armés pour garder ces nouveaux combattants?
C'est le cœur du problème, cher Alexandre. C'est finalement une angoisse qui touche toute l'Église parce que la préparation au baptême, elle est longue, c'est 2 ans en moyenne, mais le taux d'évaporation justement après le baptême est très important. On parle parfois de 50% de pertes. Alors pourquoi? Parce que souvent ces jeunes sont isolés, ils n'ont pas de tissu social, ils n'ont pas de famille qui partage leur foi, ils ne sont pas entourés finalement par des traditions locales pour les soutenir dans la durée. Or, justement, le catholicisme, c'est une religion de l'incarnation. Ça nécessite une communauté humaine pour pouvoir justement se perpétuer, s'enraciner. Et l'une des maladies spirituelles qui les choque le plus quand ils arrivent dans certaines paroisses, c'est souvent la mondanité dont ils sont parfois un peu exclus. Ils ont tout quitté pour le Christ, ils ont rompu avec les habitudes du monde et ils se retrouvent souvent face à, on pourrait dire, des habitus bourgeois. Le défi absolu de notre époque, c'est non seulement, donc effectivement, d'augmenter ce nombre de baptêmes, mais c'est aussi justement d'être capable d'encadrer, de former, d'enraciner ces jeunes adultes dans la foi. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi directement à eux parmi ceux qui écoutent Ligne Droite après leur baptême dimanche. Eh bien, ne restez pas seuls. C'est aussi d'ailleurs pour répondre à ce défi qu'Academia Christiana existe. C'est justement d'être capable de donner une réponse à un moment précis dans l'Église où justement nous devons sortir des clubs mondains pour pouvoir accueillir justement ces convertis qui pourront devenir, si Dieu le veut, eh bien, les forces vives d'un renouveau de la chrétienté dans une époque particulièrement sécularisée.
Et puis, d'autant que ces nouveaux convertis feront sans doute des enfants catholiques aussi, ils les entraîneront avec eux, ce qui donne quand même beaucoup d'espoir. Merci Victor Aubert.
Je vous en prie Alexandre, à bientôt, à la semaine prochaine.
Ligne droite. La revue de presse de Gilles Brochard.
Gilles Brochard, bonjour.
Bonjour Alexandre, bonjour Franck et bonjour chers auditeurs. J'espère que vous avez passé de beaux moments de Pâques.
C'était le cas en effet. On va passer à votre revue de presse parce que Le Parisien consacre un article à l'entrée de Sarah Knafo hier au conseil municipal du 16e arrondissement, accompagné par 3 autres élus.
Oui, pas très loin d'ici. Hein. Jérémy Redler, élu LR, est désormais le maire de l'arrondissement. Mais Sarah Knafo assure, il s'agira d'une opposition constructive, exigeante et pas stérile, promet après du Parisien la nouvelle conseillère de Paris. Il faut défendre cet arrondissement qui va être le bouc émissaire d'Emmanuel Grégoire, avant d'ajouter « Nous ne sommes pas là pour bloquer », s'étant abstenu d'ailleurs au moment d'élire le maire. Et évidemment, quand l'élu de gauche Geneviève Garrigos, Garrigós, moi je ne connaissais pas, l'ancienne présidente d'Amnesty International France a pris la parole, c'était pour déplorer, je cite, l'entrée de l'extrême droite de Madame Knafo, clamant que les citoyens du 16e arrondissement ne céderont pas à la haine de l'étranger, on ne sait pas pourquoi elle a dit ça, soutenue par quelques huées vraisemblablement adressées à la députée européenne. Bref, toujours est-il que Sarah Knafo a assuré qu'on la verra à chaque conseil d'arrondissement, jonglant avec son agenda à Strasbourg où elle siège au Parlement européen.
Et oui, et quand LinkedIn mêle vie professionnelle et vie privée, donc ça c'est la dernière tendance à la mode.
Oui, alors c'est ce que souligne le mensuel, je ne sais pas si vous le connaissez, donc Eco Réseau Business dans son dernier numéro, c'est un journal sur l'entreprise qui est dans les kiosques évidemment. L'article signé Lisa Bégoin raconte que la plateforme professionnelle est devenue un espace d'expression comme un autre. On y parle de politique, du dernier film que l'on est allé voir et du nouveau restaurant branché, sans oublier la morale entrepreneuriale en conclusion. Ainsi, LinkedIn, qui normalement a pour vocation, vous le savez, de présenter les CV de chacun dans sa discipline professionnelle particulière et qui permet aussi de postuler à des offres d'emploi et d'échanger sur des sujets pro, c'est la meilleure application de rencontre, dixit Marie, chef de projet dans la communication, dans les colonnes du Point. Alors, selon une enquête publiée par l'entreprise de conseil numérique Digitiz, près d'un Français sur deux, soit 47%, a déjà été abordé sur LinkedIn à des fins de séduction. C'est votre cas, Alexandre ?
Ben, j'étais en train de me dire que non, et j'étais extrêmement déçu.
Oh, et fréquemment, pour
par contre, beaucoup de gens se plaignent des vôtres, par contre. Je plaisante. Hein.
Et fréquemment, pour 15% d'entre eux. Alors, rien d'étonnant, ajoute la journaliste, lorsqu'on sait que le travail est le deuxième lieu de rencontre amoureuse et les applications... Le cinquième, voilà.
Eh bien, c'est très bon à savoir. Voilà. Vous avez lu un entretien avec Lucie Bache, surnommée Dame Antigaspi. Mais pourquoi faire ?
Alors, tout simplement parce que cette jeune femme de 34 ans a fondé la première application anti-gaspillage en France et en Europe, avant les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, appelée en bon français « Too Good To Go ».
Ah ça, je l'ai,
voilà.
Cette application.
Moi, je l'ai depuis hier. Mmh. Alors, c'est disponible sur votre smartphone notamment. Et dans la nouvelle formule du magazine Écologie 360, que vous devez connaître, mon cher Alexandre, je vous offre, on peut peut-être le voir à l'antenne grâce à Franck, je vous offrirai le numéro, daté de mars-avril. Alors, vous lirez l'entretien donné par cette Lucie Bache, qui n'est pas pour l'écologie punitive, bien au contraire, et qui raconte que son application sauve aujourd'hui 4 repas par seconde du gaspillage dans 20 pays où elle compte sur 100 000 commerçants actifs sur la plateforme et 130 millions d'utilisateurs.
Ah oui.
Ainsi, les commerçants, vous l'aurez compris, proposent leur invendu à prix réduit à des consommateurs comme vous et moi. Alors prenons un exemple, cher Alexandre, j'ouvre l'application et plusieurs paniers surprises me sont proposés près de chez moi. Comme celui à base de légumes à récupérer à 4,99€ au lieu de 15€ avant 22h ce soir. Alors je m'inscris et puis je réserve mon panier. Et vous pouvez lire cet avis quand vous le réservez. On aimerait vous dire qu'il y aura exactement dans votre panier ce qu'il y aura dans votre panier surprise, mais cela sera toujours une surprise. J'ai bien aimé la mention. Alors le commerçant le remplira de ses invendus du jour. Et il est précisé que vous devez apporter votre propre sac de transport. Mmh. Il peut s'agir aussi d'un panier issu d'une épicerie asiatique, toujours dans les mêmes prix. Alors la seule condition, c'est souvent les horaires, hein. C'est soit 18h, soit 21h. L'itinéraire est affiché d'ailleurs pour s'y rendre.
Cela étant, les horaires sont parfois tout à fait ouverts, je le précise. C'est-à-dire que par exemple, en bas de chez moi, il y en a un qui est ouvert à partir de midi, ou on peut l'ouvrir à partir de midi. Voilà.
C'est bien.
Et à côté de ça, ça marche donc pour certains restaurants aussi. Donc vous parlez des chinois, mais pas seulement. Oui. Donc ça marche pour certains restaurants et il faut même des livraisons pour certains types de produits spéciaux si vous voulez avoir toutes les informations.
Bon, bah, à bon entendeur.
Bon, alors, et cette même personne, Lucie Bache, lance Poppins.
Oui, alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, déclare-t-elle au même magazine, de lutter contre une autre forme de gaspillage. Alors que beaucoup sont confrontés à des enjeux de pouvoir d'achat, ils ont tous chez eux des milliers d'objets non utilisés. Je suis sûr que si je viens chez vous, j'en trouve, hein, Alexandre. Alors, il faut sortir de l'obsession de la propriété individuelle pour aller vers la prospérité collective en remettant la location au goût du jour. Louer du matériel doit être aussi simple que de faire ses courses. L'application Poppins joue un rôle d'agrégateur qui liste toutes les solutions disponibles près de chez vous, auprès des particuliers comme des magasins de location. Ben, il fallait y penser, ça s'appelle Poppins.
Voilà, voilà. Bah, pas inintéressant non plus. Ouais. Alors, il y a aussi, vous nous parlez aussi d'une vente aux enchères exceptionnelle.
Alors, ça ne ratez pas. La maison Millon, qui est très connue dans le 9e arrondissement, met en vente aujourd'hui et demain la collection de René Château, génie du marketing, comme l'écrit le Parisien, qui a réinventé le Bebel des années 70. Grand spécialiste de l'affiche du grand écran, souvenez-vous, c'est cet homme qui a édité des milliers de cassettes vidéo, puis de DVD de films grand public. Vendredi, écrit Yves Jéglet, l'expert de la vente Christophe Guéry et ses collaboratrices déballent encore les cartons. Il y a 656 lots aux enchères qui débutent à 40 €. Alors des photos comme des assiettes James Dean ou Elvis Presley, mais surtout des affiches de très grands choix, comme celle de M le Maudit de Fritz Lang qui date de 1931, mise à prix entre 4000 et 6000 €. C'est pas grand chose. René Château, mort en 2024 de milieu modeste, entré pour la première fois à 14 ans dans un cinéma, avait interviewé Belmondo sur le tournage de Pierrot le Fou en 65 pour son magazine qu'il avait créé dans son école. Ils ne se quitteront plus et c'est Château qui invente le graphisme Belmondo en grosses lettres sur les affiches du Guignolo ou du Marginal. Il fait alors fortune comme distributeur en repérant à Dakar un film avec Bruce Lee que personne ne connaissait. Il était parti de rien et avait peur de redevenir pauvre, confie l'expert de la vente. Figurez-vous qu'il collectionnait une masse d'ouvrages sur la collaboration afin d'écrire une somme sur le cinéma français sous l'occupation. Alexandre, vous savez quel était l'emblème de René Château, l'équivalent du lion de la Warner Bros?
Oui, un félin.
Oui, mais lequel?
Un léopard?
Non, c'était une panthère noire, vous vous souvenez?
Bien sûr.
Voilà, René Château, la panthère qui se déploie.
La grande panthère noire.
Alors, la vente a lieu à partir de 11h ce mardi. Et demain, mercredi, au 3 rue Rossini dans le 9e, le catalogue magnifique est gratuit. Et jeudi, vous avez aussi une vente, la 3e, de 11h à 14h. Tout renseignement sur www.millon.com. Je vous ai réservé l'affiche de M. Le Maudit, mon cher Franck.
C'est très gentil.
Et tout de suite, une petite minute de zone libre.
Allez.
Zone libre.
Et vous savez, cette... Oui, dites-moi,
Gilles. Non, alors, j'étais intéressé de savoir que René Château avait cette collection sur la collaboration, parce que je suis allé voir lundi, je ne sais plus quand c'était, je suis allé voir samedi, je suis allé voir Les Rayons et les Ombres.
Enfin, voilà. Oui, excellent film.
Que j'ai très, trouvé. Très bon. Alors, je pense que ça doit être le film de l'année. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, outre l'histoire qu'on connaît un petit peu quand même, c'est les décors et. Je vais donner un coup de chapeau à Pascaline Chavannes, qui est la costumière de ce film, qui est notamment la costumière des films de François Ozon. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'on est vraiment on rentre de plein pied. Et je trouve que je pense que c'est un des plus beaux rôles de Jean Dujardin. Moi, j'avais beaucoup de mal avec Jean Dujardin pour ses premiers films. Après, je l'ai vu dans le film avec de Tesson, que j'ai trouvé très bien. Et là, vraiment, il rayonne. Et cette jeune femme qui joue la fille de Luchère, dont le prénom et le nom m'échappent, elle a un nom un peu particulier, qui est la fille de Léos Carax, hein, le réalisateur, je trouve qu'elle a une présence incroyable. Elle est à la fois effacée, pudique, et en même temps, elle est prise dans un engrenage. Quand on lui demande à la fin, en 46, mais vous ne saviez pas qu'il y avait des camps de concentration? Elle dit, mais non, je ne savais rien. Et en fait, elle était tellement éblouie par l'image de son père qu'elle vivait dans une autre dimension. Et c'est ça qui m'a intéressé dans le film.
Fin de la récréation. Et donc, son nom, c'est Nastia Golubeva Carax. Voilà. Et je vous invite, cher Gilles et chers auditeurs, à regarder l'entretien que nous avons réalisé avec Laurent Dandrieux et Éric Branquin sur Les Rayons et les Ombres, justement. Je pense que ça vous intéressera.
Ouais, absolument.
Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir d'animer cette nouvelle matinale en ce mardi 7 avril. Voilà, ligne droite se poursuit, mais ligne droite a besoin de vous.
C'était un plaisir de réaliser cette émission, si vous voulez savoir. C'est que du bonheur, 7h-10h sur Radio Courtoisie. Alors, chers auditeurs, si le bonheur que nous vivons ici est qu'on dit contagieux, eh bien, soutenez-nous pour que cela continue. Radio Courtoisie refuse toute reprise. Oula, j'ai du mal. C'est comme vous m'avez... Oui, je sais pas, ça doit être le chocolat, je ne sais pas. Soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne. Un grand merci d'avance. Je vous redonne l'adresse soutenir.rc.fr.
Voilà, et tout de suite, nous écoutons pour terminer Rodolphe Kart qui nous parle de Bali Bagayoko, le héros de la Nouvelle-France. Oh.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler de Bali Bagayoko, nous allons parler du maire de Saint-Denis, de cette marche contre le racisme que Maïlys Clauzel évoquait à l'instant. Nous allons parler de la Nouvelle-France et tout cela, ce sera avec Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe.
Bonjour.
Alors, vous êtes, je le rappelle, journaliste et vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, je ne saurais lesquels citer, mais notamment un ouvrage sur Mélenchon, le bruit et la fourreur, et puis également, on peut citer Faire Légion pour un réveil des autochtones, pardon. Alors, Rodolphe Carte, la première question, c'est que ce week-end, il y a quand même eu, effectivement, samedi, 6000 personnes, selon la police, rassemblées à Saint-Denis. Quel était l'objectif de cette démonstration de force ?
Bah, moi, j'ai eu l'impression un peu d'une AG étudiante, on va dire, augmentée. C'est vrai qu'il y avait quelques drapeaux français, assez rares, beaucoup de drapeaux palestiniens, des drapeaux du parti, des drapeaux de la CGT, du NPA, de Révolution Permanente. Aussi du PS, qui a été, relativement houspillé. Mais par contre, c'était intéressant de voir les petites sphères aussi à gauche encore de la France Insoumise avec le MPA ou Révolution Permanente. Donc, on était encore dans une stratégie de consolidation du socle. C'est-à-dire, on sait que Jean-Luc Mélenchon, notamment au moment des élections municipales, a eu besoin de mobiliser sa base. Donc, on voit qu'il est... Je dirais pas que c'est encore un meeting de campagne, mais plutôt de pré-campagne, parce qu'il n'y a pas encore cette volonté d'ouverture, d'élargissement, comme on a pu le connaître par exemple en 2017, où là, les meetings de la France Insoumise, il y avait énormément de drapeaux français, vous vous en souvenez, c'est quand on remplace le drapeau rouge, communiste, parfois même par les drapeaux bleu, blanc, rouge, qu'on chante un peu plus la Marseillaise que l'international. Donc voilà, on a un meeting, je dirais, relativement militant. D'ailleurs, sur l'estrade, c'est intéressant aussi de voir les personnalités qui se sont succédées. Il y avait Assa Traoré. Aussi peut-être mentionner qu'il y avait le véritable instigateur de cette ligne quelque part, qui est Coquerel. C'est Coquerel, à partir de 2017, qui souffle à l'oreille de Mélenchon que les 600 000 voix, parce qu'en 2017, il échoue à l'accession au second tour à 600 000 voix près, elles sont dans les banlieues. Oui. C'est là-bas qu'il faut aller chercher les voix, même si moi je pense que l'abandon en réalité du vote des classes populaires majoritairement blanches, autochtones, en tout cas de la France périphérique et du périurbain, l'abandon a été fait beaucoup plus tôt. Mais là, disons que c'est vraiment l'acte fondateur de la nouvelle stratégie France Insoumise, où on essaye d'élargir la base, en tout cas, ou en tout cas de la mobiliser, la base électorale des banlieues. Donc là, on était vraiment dans une marche, dans cet esprit en tout cas.
Et on voit que ce qui était recherché d'une certaine façon, c'était de mettre en avant un thème qui est celui de l'antiracisme, qui est pour le coup un des thèmes majeurs employés par la France Insoumise, mais pas nécessairement le principal non plus de ces dernières années. Est-ce que finalement l'antiracisme mobilise tant que ça les racisés ?
Disons que pour la stratégie, ou en tout cas les mythes mobilisateurs, Jean-Luc Mélenchon, il a à mon avis perçu quelque chose d'assez important, c'est qu'il faut les incarner. On parle souvent du mythe palestinisme, ou en tout cas du palestinisme avec la figure de Rima Hassan. On a le mythe antifasciste avec Raphaël Arnaud, autour duquel le groupe a fait bloc. Il n'y a pas eu de défection, c'est quand même des indications, ça a gardé en tête. Et donc vous avez ensuite ce mythe de la Nouvelle-France, ce mythe antiraciste, incarné par cette nouvelle figure qui émerge un peu grâce aux élections municipales, qui est Bakayoko. Donc c'est intéressant de voir que là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il a l'intelligence à chaque fois, quand il avance un mythe mobilisateur politique, on va dire, de l'incarner. Ça, c'est intéressant. Et peut-être que les autres partis politiques en manquent de ces figures qui incarnent. Même si Mélenchon a toujours cette position de surplomb, de grand Manitou, c'est lui qui contrôle. Mais par contre, oui, il a à chaque fois une personnalité pour incarner la chose. Et ça, je pense que c'est vraiment un des avantages de la France Insoumise, ou en tout cas, ça fait partie de leur stratégie, et c'est plutôt redoutable, il faut le dire.
Oui, c'est un sujet, un lieutenant, quelque part, un héros AUT, comme on le titrait pour cette émission. Rodolphe K, je vous propose justement au sujet de Bali Bagayoko de mettre votre casque et d'écouter peut-être quelque chose qu'on a diffusé il y a quelques minutes, mais que je voudrais réentendre avec vous.
En tout cas, moi, je prendrai à l'échelle de la ville de Saint-Denis et Pierrefitte l'ensemble de mes responsabilités. Je suis consacré essentiellement à répondre aux préoccupations de mes habitants. Et si la réponse à ces préoccupations peut permettre d'impulser en fait une dynamique nationale, avec plaisir. Mais je ne me lance pas en fait dans un projet national.
Mais alors, on y pense pour vous. Certains vous considèrent déjà comme un Obama français.
Voilà. Alors, Bali Bagayoko, qui serait donc un Obama français, Anne-Sophie Lapix se lance là-dessus, et puis même dit, si vous ne pensez pas au sujet national, nous, on y pense pour vous. Il y a quand même quelque chose de facile.
Oui, c'est la fameuse bascule qu'on a essayé tous un peu de prophétiser, à quel moment, justement, une partie des personnalités que Jean-Luc Mélenchon a fait monter dans l'appareil, elle est le grand remplacé. C'est vrai qu'on a mentionné, par exemple, l'entretien d'Ali Duhara avec Rachel Garrido oui. et Sandrine Rousseau. C'était pour le Média
Lunaire,
Stress.
Cet entretien, par ailleurs.
Oui, mais... et c'était la même chose avec la prise de parole de Rima Hassan devant Mathilde Panot en disant que le porte-parole allait s'arrêter. C'est intéressant que vous mentionniez aussi la matrice antiraciste. Parce que pendant cette manifestation, on l'a vu, SOS Racisme a été largement houspillé. Et là, certains se sont dit, mais attendez, pourquoi SOS Racisme est houspillé ? Moi, je dis que c'est une longue, en tout cas, c'est une logique qui coule de source, si je puis dire. SOS Racisme, on sait que c'est piloté depuis l'Élysée dans les années 80 pour, on va dire, passer du combat social au combat sociétal. C'est-à-dire, on va cette fois-ci constituer la gauche au mythe du tour, en tout cas du mythe antiraciste. Ça permet, en plus, ce mythe antiraciste, il a un avantage, c'est qu'il permet d'unifier la gauche, d'intimider le centre et d'attaquer la droite. Oui. C'est un mythe, j'ai envie de dire, politique extraordinaire. Et Jean-Luc Mélenchon s'en sert très pertinemment. Et puis, vous avez vu, au fur et à mesure des années, une critique de cette utilisation, justement, du mythe antiraciste, notamment par les indigènes de la République. Et Ourya Boutelja, qui avait très férocement attaqué, en tout cas, l'appareil Parti Socialiste, à l'époque, en disant que, justement, les socialistes, qui étaient, on va dire, des blancs universalistes, bourgeois, se servaient des banlieues comme faire valoir, justement, et en plus, pour culpabiliser le peuple autochtone, en leur disant que leur histoire, c'est deux choses, la collaboration et la colonisation.
Ouais, mais après, il y a toujours, justement, cette question de... du fétichisme en plus envers ces populations, la question de comment on les valorise. En fait, ça m'amène à une autre question, tout ça, c'est que, évidemment, on a vous parliez d'Ourya Boutelja à l'instant, qui, elle, pour le coup, va se placer dans une frange extrêmement conservatrice, enfin, une sorte de néo-réaction un peu étrange autour de valeurs traditionnelles des peuples autochtones arrivés en France, donc les peuples africains essentiellement. D'un autre côté, on a toujours cette idée de la convergence des luttes entre effectivement les luttes progressistes et les luttes antiracistes qui se mènent. Et tout ça nous amène à un concept nouveau qui a été forgé quand même il y a quelques années, qui est le concept de Nouvelle France. Moi, j'ai fait une petite chronique là-dessus il y a une dizaine de jours. La Nouvelle France, c'est pas une France composée exclusivement, disons-le franchement, mais de Noirs, d'Arabes, d'Asiatiques ou de personnes je ne sais où. C'est une nouvelle forme de la France. Comment ça se matérialise ? Parce que doctrinalement, il parle pas tant que ça, finalement, du métissage des populations, par exemple.
Non, non, et d'ailleurs, peut-être rappeler aussi à quel point même la Nouvelle France est archipélisée. Elle n'échappe pas au phénomène qu'on connaît bien en France. C'est intéressant parce que pendant cette manifestation, vous avez Delogu qui s'est pris en photo en train d'embrasser la main d'une voilée d'origine africaine, d'Afrique noire. Allez voir les commentaires dessous.
Ouais.
Là, c'est éclairant. Il faut aussi rappeler à quel point, au sein de la Nouvelle-France, il y a des fractures. Et même, disons que à l'orée, justement, peut-être des années 2030-2040, on verra une lutte intra-communautaire, comme on le connaît, par exemple, dans d'autres pays. Je pense à l'Angleterre, vous avez des affrontements entre les communautés aussi. Donc, vous avez raison de pointer du doigt que c'est pas une concorde générale, justement, ce concept de Nouvelle-France, et c'est pas une créolisation générale. Et d'ailleurs, parfois même, comment dire, le fait de pousser la créolisation, ça peut même être plutôt mal vu parfois par ses électorats cibles. Et même, on a connu, vous en souvenez, des affrontements en 2020, c'était à Dijon, entre les communautés tchétchènes et maghrébines. Aussi, Rima Hassan disait quelque chose d'intéressant dans un entretien, je crois même que c'était sur la chaîne des indigènes de la République. Elle disait « Moi, la communauté qui m'attaque le plus sur les réseaux, c'est la communauté marocaine. » Pourquoi ça ? Parce que Rima Hassan, au moment du conflit sur le Sahara occidental, avait pris parti, et on sait qu'elle a des positions très largement pro-régime algérien. Donc vous voyez, ça pose des questions, et en fait cette unité, elle est largement mythifiée, hein, même du côté de Mélenchon.
En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon serait une France qui, non pas remplacée, mais qui prendrait en compte le grand remplacement, je dirais, selon les termes de la droite nationale, et puis à côté de ça, qui prendrait en compte plein d'autres paramètres. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une question qu'on se pose tous depuis quelques années, et à laquelle on n'a toujours pas la réponse, c'est quand est-ce que ça va, pardonnez-moi l'expression, mais quand est-ce que ça va péter ?
Oui, alors pareil, en fait, dans mon livre, je revenais sur, vous l'avez très bien dit, cette alliance qu'on a un peu avec cette convergence inédite. Mais par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que de chaque côté, on n'est pas dupe d'avec qui on fait l'alliance.
Oui.
C'est pas non plus un mariage où tout se passe bien. Il y a de relatives craintes, il y a beaucoup de, comment dire, de, je dirais pas de... d'alliance en dépit d'eux. Mais par contre, moi qui avais pas mal analysé le discours des indigénistes, par exemple Wissam Gzelka, qui est un streamer bien connu des sphères internet et qui est issu de ce monde-là, disait justement, on est derrière la France insoumise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est le seul parti qui peut arriver potentiellement au pouvoir, donc la vision stratégique, et c'est aussi le parti le moins islamophobe de France.
Oui.
C'est pas le parti le plus enclin à promouvoir une politique pour les musulmans, le moins islamophobe. Donc voyez la logique aussi dans laquelle ils sont vis-à-vis des partis politiques.
Parce que d'une certaine façon, ce qui est assez fascinant et qui n'existe pas tellement, je trouve, dans d'autres mouvances politiques, c'est que par exemple, la majorité, des musulmans, même des musulmans radicaux, vont voter pour la France insoumise, comme par exemple une grande part aussi des personnes s'identifiant LGBTQ+, etc. Pourtant, les deux ne peuvent absolument pas coexister. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui, je pense, est assez juste. De même qu'on pourrait dire que les Marocains et les Algériens ont aussi du mal à coexister dans le fond. En fait, on a l'impression que ça pousse. Est-ce qu'au bout d'un moment, tout ça va se briser avant peut-être une victoire de la gauche, selon vous ?
Bah, en tout cas, on apprend, en tout cas dans ces diverses déclarations, qu'il y aura un point où il y aura une difficulté. Aussi, vous savez, il y a eu un livre qui est sorti récemment, Occident avec un S, de Frédéric Martel, qui revient un peu sur une alliance réactionnaire, justement, à travers le monde. Il revient un peu sur ces aspects. Bref, ça c'est sa thèse. Moi, par contre, il y a le cas vénézuélien qui m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est vrai que j'ai ressorti mes fiches sur le Venezuela parce que au début des années 2000, c'est vraiment la matrice dans laquelle Jean-Luc Mélenchon va prendre une grande partie, ouais, on va dire, de ses thèses. C'est vraiment là que le populisme type mélenchoniste Nouvelle France...
Précisons que c'était le Venezuela de Chavez, pas celui de Maduro. Hein,
exactement. Mais par contre, il voit plusieurs choses dans cette Amérique latine. De un, la foi religieuse, elle a une importance aussi dans le combat social. C'est la fameuse théologie de la libération, etc. En tout cas, il se rend compte de l'importance de la religion. Deuxième point, il se rend compte aussi de l'importance des conflits ethnoculturels. À l'époque, Chavez joue énormément contre l'indianité, les Indiens contre l'hyperclasse, ou en tout cas l'oligarchie blanche, qu'il va qualifier de bourgeoisie comme Prador, selon la terminologie marxiste. Mais vraiment, Jean-Luc Mélenchon se rend compte que on peut adosser au combat social les luttes pour les minorités. Donc là, il met dedans les LGBT, les femmes célibataires, les minorités religieuses, etc. Et aussi le côté religieux. Et ça donne ce pot pourri. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Hugo Chavez vantait parfois, ou en tout cas riait du fait qu'il ait, je le cite, des grosses lèvres ou alors des cheveux frisés. C'est quelque chose qu'il mettait en avant justement parce que c'était le fruit du métissage.
Comme Mélenchon le fait d'une certaine façon.
Avec le fameux maghrébin européen. Ouais. Sauf que Mélenchon, il faut quand même le rappeler, a quand même une tête de colon blanc. Excusez-moi, européen. D'ailleurs, c'est ses origines et il ne s'agit absolument pas de lui enlever. Mais disons que quand il se présente comme maghrébin européen, il y a une certaine barrière quand même qui se présente. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de ce prototype. Mais par contre, quand vous voyez des figures comme M. Bagayoko, c'est certain que Jean-Luc Mélenchon doit, comment dire, entendre le vent siffler dans ses oreilles un petit peu.
Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Carr. On voit quand même que c'est plus une alliance contre, finalement, qu'une alliance pour, avec tout ça, antiraciste, antifasciste, anti... Il y a quand même toute cette idée, mais c'est toujours cette convergence des luttes, à voir vers quel projet. Effectivement, on vous recevra à l'avenir pour peut-être parler un petit peu plus de la stratégie finale de la gauche et des stratégies qui existent en son sein, j'ai envie de dire. Merci d'avoir été
merci
avec nous.
Vous.
Et puis, on vous dit à très bientôt.
Merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce matin pour suivre la Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Mais il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit aussi de donner.
Vous savez comment vit Radio Courtoisie, Alexandre ?
Eh bien, apprenez-le moi, Franck.
Eh bien, elle ne vit que grâce à ses auditeurs. On pourrait faire une pièce de théâtre, c'est un beau duo. Plus sérieusement, à l'attention de nos auditeurs qui écouteraient Radio Courtoisie, qui la découvriraient juste à l'instant sans savoir qu'elle ne vit que grâce à eux, eh bien, c'est le moment d'en prendre conscience et de nous aider en allant sur soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr, chaque euro compte et même les petits dons sont importants pour nous. Ils nous permettent, si vous voulez mensualiser, par exemple, d'avoir un peu de visibilité sur notre trésorerie. Un grand merci d'avance.
Voilà, on nous dit toujours qu'on fait beaucoup d'appels appels aux dons, mais c'est parce que on n'a pas le choix et qu'on a besoin de ça.
Et il y a moins d'appels aux dons sur Radio Courtoisie que de publicité sur les autres chaînes.
Ça, c'est très juste. Voilà. Et alors, étant donné qu'il n'y aura pas de publicité, qu'est-ce qu'il y aura sur Radio Courtoisie aujourd'hui ?
Les mardis de la mémoire d'Anne Collin dans quelques instants, dans quelques secondes, même itinéraire spirituel et historique en Terre Sainte, première partie d'une série d'émissions. À midi, le Libre Journal des Beaux-Arts de Michel Colombin pour Maurice André. À 16h, planche Casse Zébul de Richard de Sèze. 16h30, le RC Mac de Jean-Étienne Posa. 17h30, le Restons Courtois d'aujourd'hui présenté par Richard de Sèze aujourd'hui. 19h30, le Libre Journal de la Francophonie Heureuse d'Antoine Assaf. 21h30, le Libre Journal de la Réaction d'Hilaire de Crémier. Et puis à 23h, la soirée musicale. Aujourd'hui, vous entendrez les ouvertures de Mendelssohn en compagnie de Stéphane. Vous savez tout.
Eh bien, tout ça, ça fait envie. Et puis, demain, un nouveau programme qui sera sans doute tout aussi passionnant que celui d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je crois qu'on fera le bilan des 10 ans du macronisme.
Tout à fait.
Et donc, merci d'avoir été avec nous. Et moi, je vous dis à très bientôt.
À demain, 7h.